Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans InfoClub Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. En bref, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Amiens. Pour ce nouvel épisode de votre quotidienne, je suis accompagné d'Aline. Salut, comment ça va?
Salut, ça va bien et toi?
Bah écoute, ça va au top. C'est une journée un peu particulière le 25 novembre, c'est une date un peu particulière. Quel est ton invité du jour, Aline?
À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous recevons Safia Dra, chef du service du pôle SOS Violence Vie Privée de l'association Agena. Bonjour Safia.
Bonjour.
Alors, rapidement, pouvez-vous nous présenter l'association?
Oui, alors Agena, tout d'abord pour vous dire un petit peu ce que signifie le terme Agena, donc c'est le nom d'une étoile qui est située dans la constellation du Centaure et dont la légende dit qu'elle a des vertus protectrices envers les femmes. C'est donc le nom qui a été choisi pour cette association qui a été créée en 1976 à Amiens, qui intervient dans tout le département de la Somme. C'est une association sans but lucratif qui a pour but de conseiller, d'accueillir, d'héberger, de loger, mais aussi de protéger des femmes en difficulté, seules ou accompagnées d'enfants. Donc l'organisation, l'association aujourd'hui est organisée en plusieurs domaines d'intervention. Donc tout d'abord le volet petite enfance, parentalité et protection de l'enfance. Il y a également tout un pôle hébergement, logement. Et puis le troisième grand domaine d'intervention, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment le service SOS Violence Vie Privée, qui est lui-même organisé en trois pôles. Donc on a tout d'abord un pôle prévention. Donc ce pôle prévention, il est constitué principalement du van Nina et Simone. C'est un véhicule qui sillonne les routes du département tout au long de l'année, avec à son bord des professionnels qui donc se situent vraiment dans une démarche d'aller vers la population samarienne afin de pouvoir aborder tout un tas de thématiques en partant de l'égalité homme-femme, des questions de genre, des questions d'insertion, de vie de couple, de sexualité, mais aussi de violence. Donc là, on est vraiment dans cette démarche d'aller vers les personnes et non pas de se tenir à disposition, qui est voilà, ce qu'on peut voir le plus habituellement. Ensuite, on a également un pôle victime. Donc ce pôle victime, il est constitué de plusieurs missions, notamment l'accueil de jour départemental qui est situé donc sur Amiens pour Agena. C'est un lieu où l'on reçoit 3 demi-journées par semaine sans rendez-vous toute personne victime de violences conjugales ou intrafamiliales qui ressent le besoin de pouvoir échanger avec un professionnel, quelle que soit sa situation. Donc ça peut être des femmes qui sont en couple avec un conjoint violent, qui vivent la violence au quotidien. Ça peut être des femmes qui sont déjà dans une démarche de séparation ou qui ont déjà quitté le conjoint violent depuis un temps mais qui sont confrontées à tout un tas de problématiques qui peuvent y faire suite après. Le pôle victime, il est aussi constitué de plusieurs missions qui sont cette fois-ci intimement liées à la justice, donc à commencer par le téléphone grave danger. Donc le téléphone grave danger, c'est un dispositif de téléprotection qu'on remet à des femmes qui sont dans une démarche donc de séparation, de dénonciation des violences, qui pour la plupart bénéficient de mesures de protection comme des interdictions faites à l'auteur d'entrer en contact avec elles ou de se présenter à leur domicile, mais qui pour autant peuvent continuer à subir des formes de harcèlement, des prises de contact de l'auteur, enfin bref, qui ne sont pas tranquilles et pour lesquelles on craint de nouveaux passages à l'acte. Donc okay. L'idée, c'est qu'elles puissent avoir avec elles ce téléphone en permanence et qu'elle puisse l'activer en cas de situation de mise en danger afin d'interpeller rapidement les forces de l'ordre en cas de besoin.
Donc c'est un téléphone que l'association donne à ces femmes-là, c'est bien
oui,
ça
c'est dans ce dispositif, l'association Agena a pour mission de centraliser les signalements et puis également d'évaluer la situation des femmes et c'est le parquet d'Amiens qui décide des attributions de téléphones grave danger. C'est vraiment un dispositif qui est piloté par le parquet et nous sommes l'association partenaire.
Donc en lien avec la justice et oui. Les prises de décision de la justice.
Tout à fait, et plus spécifiquement le pôle mineur famille, puisque désormais les parquets sont organisés au niveau national avec des pôles qui sont de magistrats qui se sont spécialisés dans le domaine de la violence conjugale intrafamiliale.
D'accord, donc ok, super intéressant, ça permet peut-être de faire avancer les choses, le fait que les magistrats se soient spécialisés peut-être?
Tout à fait, ça permet que les magistrats aient une compréhension fine des phénomènes de violence conjugale qui sont souvent assez complexes et de pouvoir aussi faire bénéficier les victimes des mesures de protection les plus adaptées. Donc dans ce cadre-là, les partenariats avec les associations spécialisées de terrain se développent énormément. C'est également le cas pour ce qui est des bracelets anti-rapprochement.
Oui.
Où là, on est sur des dispositifs qui sont prononcés par diverses juridictions et où l'association AGENA a pour mission d'accompagner les personnes tout au long de l'attribution du dispositif et puis également de faire remonter à la justice les dysfonctionnements et les incidents qui peuvent aussi survenir puisque avec le bracelet anti-rapprochement, les deux protagonistes ne peuvent pas se rapprocher, c'est l'objectif du dispositif. Toutefois, ça n'empêche pas les contacts téléphoniques, via les réseaux sociaux, tout ce qui n'induit pas de rapprochement physique en particulier, mais qui pour autant peuvent constituer des signaux d'alerte dans les situations post-violence conjugale.
Tout à fait. Et du coup, comment ça marche ces bracelets-là ? C'est chacun... Comment fonctionne ce dispositif ? Chacun a un bracelet ? Qui porte le bracelet et...
Alors du coup, la personne condamnée est porteuse du bracelet, donc à la cheville, comme un bracelet électronique classique qu'on connaît. Et la victime, le parquet lui remet un boîtier qui ressemble un petit peu à un téléphone et qu'elle doit donc prendre avec elle en permanence, dans tous ses déplacements, etc. Ces deux dispositifs sont en permanence géolocalisés. Ça, c'est géré par un prestataire de téléassistance. Et dès qu'il y a un rapprochement, donc c'est le juge qui décide à quelle distance les deux dispositifs ne doivent pas se rapprocher. Et dès que ce rapprochement s'opère, il y a une préalerte qui se met en route. On contacte l'auteur pour lui dire « Vous êtes en train de vous rapprocher de la victime, faites demi-tour ». S'il fait demi-tour, tout va bien. S'il ne fait pas demi-tour, c'est là qu'il y a une activation en urgence des forces de l'ordre qui peuvent intervenir du coup, de la façon la plus efficiente possible avec la géolocalisation précise des deux protagonistes.
Donc dans l'action, vraiment, quelque chose qui se passe vraiment, ce n'est pas simplement des conseils, c'est de l'action.
Oui.
Ok, super intéressant. Pour le coup, c'est... On peut comprendre l'utilité et l'intérêt d'avoir ce genre d'action qui peuvent, par exemple, rassurer les femmes, de dire si vous êtes dans ces cas-là, on peut faire quelque chose de très pragmatique et être dans l'action.
Oui, ça permet de se sentir protégé, puis ça permet aussi de ne pas se sentir seul, de se sentir soutenu et de reprendre petit à petit une autonomie dans sa vie quotidienne.
Tout à fait. J'ai une petite question. Est-ce que j'ai vu sur votre site que vous décrivez les différents types de violences. Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui ?
Oui. Alors, les violences conjugales, notamment, elles sont effectivement de divers ordres. Après, on va plus considérer que c'est cette classification des violences. En fait, ce sont les différents moyens qu'on peut constater d'exercer de la violence. Donc, il va y avoir bien sûr tout ce qui est du registre des violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, économiques, administratives, et puis aussi de plus en plus les cyberviolences. Maintenant, ce qui constitue vraiment la violence, c'est le mode de relation qui est basé sur le contrôle et la domination, qui a pour but de soumettre l'autre. Aujourd'hui, on a conscience que l'ensemble des moyens d'exercer la violence, finalement, l'objectif premier, c'est la violence psychologique. Toutes les violences ont un retentissement psychologique et c'est ce retentissement-là qui va dégrader la santé physique et mentale des victimes, qui va provoquer des troubles psychiques, psychosomatiques, de divers ordres, une usure mentale qui peut même aller jusqu'à des passages à l'acte de type suicidaire et qui vont, dans tous les cas, soumettre la personne qui est victime.
Tout à fait. Peut-être une question un peu naïve, mais est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître ce qu'on appelle aujourd'hui les red flags ou les signes avant-coureurs de relations violentes ?
C'est quelque chose qui est complexe parce que de l'extérieur, les signes vont être très différents en fonction des situations. Maintenant, c'est vrai que la dégradation de la santé d'une personne ou une personne qui va être de plus en plus isolée, par exemple, qui va un petit peu s'éloigner de ses amis, de sa famille, qui va se renfermer un petit peu dans un vase clos du couple, ça souvent c'est quand même un signe d'alarme. Après, dans d'autres situations, ça peut être un couple où on va observer que il va facilement y avoir des petites blagues d'un conjoint sur l'autre. On va se dire ça c'est pas très très méchant, mais en fait on va se rendre compte que la personne qui subit la petite blague, elle le prend pas bien. On se dit quand même elle est susceptible, mais en fait ça peut aussi être des signes de violences psychologiques qui sont exercées au quotidien, qui du coup vont aussi venir s'exercer à l'extérieur et devant tout le monde.
D'accord. Et par exemple, si moi je suis témoin de violence, quels sont mes moyens d'action ?
Alors c'est compliqué d'être témoin. Alors il y a différentes façons d'être témoin. Le plus souvent, c'est de se voir confier quelque chose par une personne. C'est ce qui arrive le plus souvent. Ça peut être une collègue de travail, une amie, quelqu'un de la famille. Ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir la parole sans la juger. Tout d'abord, c'est de croire la personne, de lui dire qu'elle est courageuse d'en parler, parce que c'est pas facile d'en parler. C'est de lui assurer aussi que rien ne justifie les violences, que l'agresseur, c'est le seul responsable des violences, parce qu'on sait aujourd'hui que les victimes se sentent, dans tous les cas, coupables et pensent que c'est leur faute. Donc c'est important de pouvoir le dire à une personne, et aussi que la loi interdit les violences. Ça, c'est important. Après, ça peut aussi passer par l'informer sur ce qu'il existe. Alors, il y a un certain nombre de ressources qui existent pour les victimes, pour les aider. Alors, il va y avoir des sites internet. Par exemple, le site gouvernemental arrêtonslesviolences.gouv, qui est, voilà, sur lequel on trouve tout un tas de ressources, que ce soit pour les victimes comme pour les témoins aussi. L'association Agena également a un site internet où on peut trouver aussi de l'information et de la ressource. Ça peut être aussi des numéros de téléphone. Donc au niveau national, il existe le 3919, qui est un numéro qui est joignable 24 heures sur 24 et qui permet aux victimes de téléphoner et de parler à quelqu'un. C'est important de pouvoir en parler. Nous, au niveau de l'association Agena également, on a un numéro de téléphone. C'est le 03 22 52 09 52. Donc là, on est sur une antenne qui est plus locale, qui permet de joindre en journée, du lundi au vendredi, des travailleurs sociaux de l'association, afin de pouvoir également échanger et puis peut-être aussi se rencontrer, vu que là on est plus sur la proximité. C'est également quand on est témoin ou voilà qu'on s'est vu déposer les confidences d'une victime, c'est également de pouvoir lui proposer de la soutenir en l'accompagnant, par exemple en l'accompagnant à téléphoner à une association ou à venir physiquement sur une permanence d'accueil du jour pour qu'elle se sente pas seule et puis que ça lui donne de la force. Et puis c'est aussi de ne pas paniquer, parce que parfois on peut aussi voilà, se dire c'est très inquiétant, qu'est-ce que je dois faire, vite, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu... Les victimes, elles ont aussi une temporalité, ça prend du temps de prendre conscience et puis de pouvoir mettre en place quelque chose. Il faut respecter cette temporalité-là, donc c'est aussi important de ne pas paniquer, de respecter le rythme de la personne, ce qui n'est pas toujours évident. On a d'ailleurs, nous, à l'association, beaucoup de personnes qui nous appellent parce que, justement, elles ont été témoins de quelque chose ou qu'elles se sont vues déposer une confidence et qu'elles savent pas quoi en faire et que c'est très difficile, en fait. Donc, on a aussi beaucoup de personnes, nous, qui nous appellent et qu'on rassure et qu'on essaye d'accompagner dans ce rôle de dépositaire de la confidence des violences conjugales subies.
Ok. J'ai pu lire que vous proposez différents types d'accompagnement pour les femmes en difficulté, notamment des hébergements d'urgence et d'autres à plus long terme. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Alors effectivement, sur le pôle hébergement-logement, il y a énormément de services. Alors, à commencer par le premier, c'est le service d'hébergement d'urgence. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accueillir à tout moment et très rapidement des femmes et des familles qui en ont le besoin. Donc, ça peut passer directement par le 115, qui est le numéro de l'urgence sociale. Ça peut passer aussi par le biais du service SOS Violence Vie Privée, en sachant que nous, on travaille de toute façon en étroite collaboration avec le 115. On a des places d'hébergement sur Amiens, mais également dans tout le département de la Somme, donc dans des lieux qu'on ne communique pas forcément pour préserver la confidentialité des lieux d'hébergement, mais l'objectif c'est de pouvoir accueillir les personnes, alors soit au plus près de leur lieu de vie précédent pour celles qui ont besoin de maintenir une stabilité, souvent ça va concerner l'emploi, l'école des enfants, etc. Ça peut aussi permettre au contraire d'éloigner des personnes qui ressentent le besoin de prendre un petit peu de distance géographique. Donc ce service d'hébergement, par exemple en 2023, il a accueilli plus de 255 femmes et 249 enfants, donc sur l'ensemble du département. Par la suite, afin de pouvoir accompagner les personnes, voilà, au-delà de cette étape de l'urgence, il y a tout un panel de dispositifs d'hébergement différents au sein de l'association Agena, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, service d'intermédiation locative, pension de famille. L'idée, c'est vraiment de pouvoir orienter dans un deuxième temps les femmes qui en ont besoin vers des dispositifs qui correspondent à leurs besoins, leur degré d'autonomie, en sachant qu'il y a également beaucoup de femmes qui vont directement quitter le service d'hébergement d'urgence pour un accès au logement autonome également. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter et d'avoir un panel de services pour pouvoir s'adapter à la situation de chaque victime.
Et du coup, un accompagnement qui commence peut-être par l'urgence, mais qui s'accompagne vraiment jusqu'au bout et jusqu'à l'autonomie et après la liberté de pouvoir... De pouvoir ne plus être victime de ces violences-là.
Exactement. Exactement, en sachant qu'on est toujours là, disponible, joignable en cas de besoin. Mais forcément, c'est notre objectif premier, c'est ce qu'on souhaite, permettre à ces femmes de retrouver une autonomie qui puisse être durable.
Et enfin, vous proposez plusieurs dispositifs pour les femmes enceintes et les mères isolées, notamment les crèches, multi-accueil, etc. Je trouvais ça super intéressant. Quels sont les objectifs de ces lieux, justement, qui sont particulièrement pour les mamans, finalement ?
C'est de s'inscrire globalement dans une démarche de protection de l'enfance. Alors effectivement, il y a plusieurs services au sein de l'association Agena, notamment une maison maternelle, donc qui a pour vocation d'accueillir des jeunes filles, pour la plupart mineures, qui vont être enceintes ou accompagnées d'un enfant. Également un lieu qui s'appelle donc le service LAMI, lieu d'accueil pour mères isolées avec enfants, qui permet d'accueillir des femmes qui ont un enfant de moins de 3 ans et qui sont en situation sociale extrêmement précaire, notamment au niveau de l'hébergement. Donc ce sont des services qui sont globalement financés par le conseil départemental dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et voilà, des services qui permettent de mettre à l'abri, mais aussi d'accompagner ces femmes et jeunes femmes dans le développement de leurs compétences parentales, afin de pouvoir maintenir et développer un lien mère-enfant de qualité, permettre à ces enfants d'avoir un début de vie le plus qualitatif possible. On sait aussi que les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on est adulte trouvent souvent leurs racines dans ce qu'on a pu vivre lorsqu'on était enfant. Donc c'est vraiment une étape, cette étape de l'enfance, qui est vraiment primordiale, et il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Et donc effectivement, également une crèche multi-accueil au sein d'Agena, les Marbousées.
Donc vraiment quelque chose de très global, finalement, des solutions d'urgence, d'hébergement à long terme, etc., mais aussi pour les femmes qui sont isolées. Et aussi, est-ce que vous avez un hébergement pour les femmes en situation d'errance ? J'ai vu ça sur votre site, je crois.
Oui, alors c'est l'accueil de jour, la pause. Alors pour le coup, on n'est pas sur une prestation d'hébergement, on est sur une prestation d'accueil à la journée.
C'est moi, pardon, d'accueil.
Ouais. Mais c'est un service qui est important, qui permet en fait d'accueillir des femmes qui effectivement n'ont pas de domicile stable ou durable. C'est vraiment l'idée de leur proposer en journée, tous les jours de l'année, un lieu ressource chaleureux où elles puissent venir se mettre à l'abri, bénéficier de prestations de première nécessité, telles que prendre une douche, prendre une collation, se reposer, et puis également rencontrer, alors d'une part, des travailleurs sociaux, donc une équipe de travailleurs sociaux qui tous les jours sont là pour les accueillir, les soutenir, les accompagner dans leur démarche, mais aussi rencontrer d'autres femmes qui vivent des situations similaires, là encore pour se sentir moins seule, partager, se soutenir, développer la paire aidance aussi entre elles. Donc c'est aussi un lieu qui accueille un certain nombre de femmes qui sont victimes de violences conjugales par ailleurs.
Donc quelque chose, encore une fois, de très global et qui concerne toutes les femmes, finalement, vraiment, de la mère isolée à certaines femmes en errance, etc. C'est vraiment très global. Et je trouve ça vraiment très important d'en parler. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple ?
Parce qu'on a donné assez peu de chiffres. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que les violences conjugales, c'est vraiment un vrai problème de santé publique aujourd'hui. En 2023, 271 000 personnes ont été victimes de violences conjugales en France. On sait que la Somme est un département qui est particulièrement touché. Et à titre d'illustration, pour le service SOS Violence Vie Privée, en 2023, par exemple, plus de 1000 personnes ont été rencontrées dans le cadre du pôle prévention. Environ 700 victimes dans le cadre du pôle victime. Et puis, plus de 300 auteurs dans le cadre du pôle auteur, parce que c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais il y a aussi ce pôle-là qui est important et qui s'inscrit vraiment aussi dans cette démarche de l'association Agena d'être dans un panel de services complémentaires, parce que agir contre la violence conjugale, c'est bien sûr aider les victimes, mais c'est aussi agir en prévention de la récidive, et ça, c'est une action donc, qui doit se mener envers les auteurs, donc des actions de responsabilisation, de soins. L'idée étant que là, si on accompagne une victime à s'en sortir, mais que l'auteur, lui, on le laisse sans accompagnement ou sans soins, quel qu'il soit, il va récidiver envers une autre victime. Donc on essaye aussi d'agir sur ce levier-là.
Donc comment ça marche, par exemple, ce pôle auteur ?
Alors on est beaucoup sur des orientations judiciaires, hein, puisque c'est une réalité. Hein, les personnes qui sont auteurs de violences conjugales sont rarement dans une démarche spontanée d'accès aux soins, même si ça peut arriver. Ça reste minoritaire. Donc on a des personnes qui vont être orientées par la justice dans le cadre de condamnations ou d'alternatives aux poursuites judiciaires. Donc ça peut être pour effectuer un stage de responsabilisation. Donc ce sont des prises en charge qui sont faites majoritairement par des psychologues. Donc le stage, c'est on va être sur une démarche collective ou encadrée par des entretiens individuels. On a aussi cette phase où plusieurs personnes se retrouvent tout ensemble pour échanger sur divers sujets, pour essayer de les amener à prendre conscience de la violence qu'ils ont subie, parce que beaucoup de personnes sont dans le déni ou sont dans la victimisation, c'est pas moi, c'est à cause d'elle, etc. Donc on essaye vraiment de mettre tout ça au travail pour leur permettre de se responsabiliser, prendre conscience des conséquences sur la victime, des conséquences aussi sur leurs enfants, sur les enfants de façon générale. Et puis pour ce qui va être sur le volet obligation de soins, on va être beaucoup sur donc des entretiens individuels avec un psychologue. Donc là, on est plus sur le volet thérapeutique, on va dire un peu plus habituel, mais vraiment centré autour des comportements violents et de la mise au travail de ces comportements, et puis aussi d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut trouver d'autres biais dans sa vie quotidienne que les violences. Régler, on va dire, les problèmes, ou pour être en couple, ou pour communiquer. Parce que communiquer, pour ces personnes-là, ça passe souvent par le passage à l'acte violent, mais il y a d'autres moyens. Donc on est là pour essayer de les amener à trouver ces autres moyens et puis à les appliquer. Après, l'association Agena fait également partie, donc avec l'association AEM, sur le département de la Somme, du CPCA. Donc le CPCA, c'est le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, au sein duquel on s'efforce de développer aussi d'autres modalités de prise en charge des auteurs, notamment les modalités groupales, et au sein duquel également les personnes peuvent faire une demande spontanée, hors obligation judiciaire, et peuvent rencontrer un psychologue.
D'accompagnement, etc. Ok. Donc vraiment, vraiment quelque chose de très global. Merci Safia d'être venue sur les ondes de Radio Campus Amiens. Toutes les informations et les dispositifs mis en place par votre association sont à retrouver sur votre site agena.org et au numéro le
03 22 52 09 52.
Merci beaucoup.
Merci Aline et merci Safia pour cette interview particulièrement intéressante. Avant de continuer avec de l'actu local, je vous propose une petite pause musicale. On s'écoute tout de suite le morceau Das Kapital des Vulves Assassines.
Das Kapital.
quartier Das Kapital des vulves assassines. Aline, il me semble que tu as repéré une actu du côté de la Maison du Théâtre. De quoi s'agit-il ?
Oui, tout à fait. Le jeudi 28 novembre à 19h30 et le vendredi 29 novembre à 20h, la Maison du Théâtre d'Amiens vous propose La Meringue du Souterrain, une pièce de théâtre de Sophie Pérez de la compagnie du Zérep. Imaginez-vous, une femme avec un gros visage entre sur scène, elle semble avoir un rendez-vous. Elle attend, et le public assiste impuissant à son désarroi gêné. Finalement, son alter ego arrivera, mais trop tard. Pendant cette représentation, le public observe ce que font une actrice et un acteur quand on ne les regarde pas. Le décor semble déborder du plateau, prend toute la place, dégueule dans la salle. Cette pièce met à l'honneur un type de théâtre brut, insolent, joyeux et transgressif, un théâtre d'esprit tourmenté et de comique absolu, finalement un théâtre délirant et terriblement humain. Je vous invite à découvrir cette pièce par vous-même le 28 et 29 novembre à la Maison du Théâtre d'Amiens.
Merci beaucoup pour cette présentation. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec le morceau Keep Your Lips Sealed du groupe The Do. À demain.
Écoutez Campus Amiens 87.7.